le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, on va parler de la liberté d'expression, et plus précisément des atteintes à la liberté d'expression un petit peu partout dans le monde. Par exemple, tout d'abord au Maroc, il y a un militant qui a été condamné pour des opinions exprimées pacifiquement. Les autorités, on leur demande évidemment de mettre fin à la répression et de respecter les droits fondamentaux. Ce qui s'est passé, c'était le 3 mars 2025, donc il y a un mois, il y a un tribunal de Casablanca qui a condamné Fouad Abdelmoumini, un militant marocain de premier plan, à 6 mois de prison et à une amende pour un post publié sur Facebook. Les autorités marocaines devraient d'urgence mettre fin à leur répression grandissante contre les militants et les militantes, les journalistes et les défenseurs et défenseuses des droits humains, uniquement en raison de l'exercice de leur droit à la liberté d'expression, et donc annuler sa condamnation. Fouad Abdelmoumni, qui se trouvait alors à l'extérieur du pays, a été condamné par une contumace à 6 mois de prison et à une amende de 2000 dirhams, soit à peu près 210 dollars. Pour un message publié sur Facebook lors de la visite d'État du président Emmanuel Macron. Fouad Abdelmoumni, qui est membre du comité consultatif de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré qu'il ferait appel de cette condamnation. Balkis Jara, qui est la directrice par intérim de la division du Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch, a déclaré, je cite, « Traîner un énième militant marocain devant un tribunal et le condamner à une peine de prison simplement parce qu'il a exprimé une opinion sur les relations entre le Maroc et un autre pays montre à quel point cette répression de la liberté d'expression est scandaleuse. Le président Macron devrait faire pression sur le roi du Maroc, son allié d'ailleurs, pour qu'il mette fin à ces pratiques répressives et qu'il libère toutes les personnes détenues pour s'être exprimées pacifiquement. La police marocaine a arrêté Fouad Abdelmoumni le 30 octobre 2024 à Témara. Le 1er novembre, un procureur du tribunal pénal d'Aïn Sebha l'a inculpé pour outrage à des corps constitués et signalement d'un crime fictif dont il sait l'inexistence. Ces accusations font référence à un message publié le 28 octobre sur Facebook qui critiquait les relations maroco-françaises et prétendait que le gouvernement utilisait un logiciel espion pour cibler les dissidents. Fouad Abdelmoumni a été remis en liberté provisoire le 1er novembre. Le 31 octobre, le procureur général de Casablanca a déclaré que les allégations selon lesquelles les autorités marocaines seraient impliquées dans la traite d'êtres humains, d'organisation de l'immigration clandestine et l'espionnage à l'aide du logiciel Pegasus ne reposaient pas sur des preuves suffisantes et étaient fausses. Une pétition signée par près de 300 activistes et défenseurs et défenseuses des droits humains a appelé les autorités marocaines à annuler la condamnation de Fouad Abdelmoumni et a aussi demandé la libération de tous les détenus d'opinion au Maroc et dans les autres pays du Maghreb. Fouad Abdelmoumni est le coordinateur de l'association marocaine de soutien aux prisonniers politiques et a ouvertement critiqué le système marocain. Les autorités le prennent pour cible depuis des années, notamment au moyen de la surveillance numérique, en portant atteinte à sa vie privée et en le harcelant de manière répétée via des médias liés aux services de sécurité. Il a été prisonnier politique en 1977 et en 1982, période durant laquelle il dit avoir été sujet à la torture et à la disparition forcée. Fouad Abdelmoumni a appris en 2019 que son téléphone était infecté par Pegasus. Donc c'est le logiciel espion qui a été développé et vendu par la société NSO Group basée en Israël. Ce logiciel donne accès complètement à l'appareil, donc aux photos, aux micros, aux appels vocaux, support, courriel, message texte et à d'autres fonctions d'un téléphone, permettant une surveillance étendue de la personne ciblée et de ses contacts. Les enquêtes menées par Amnesty International et Forbidden Stories ont révélé que les autorités marocaines étaient à l'origine, à l'aide de Pegasus, du piratage des smartphones de plusieurs journalistes et défenseurs et défenseuses des droits humains, ainsi que probablement des milliers d'autres personnes entre 2019 et 2021. En décembre 2020, Fouad Abdelmoumni ainsi que d'autres victimes de logiciels espions ont déposé une demande d'enquête auprès de la Commission nationale marocaine de contrôle de la protection des données à caractère personnel. La commission n'a pas donné suite à la plainte, affirmant, je cite, qu'elle n'était pas compétente pour ce type d'affaires. Les autorités marocaines ont nié à plusieurs reprises avoir utilisé Pegasus pour espionner des dissidents ou dissidentes. En 2020, un compte WhatsApp anonyme a envoyé 6 vidéos à quelques dizaines de personnes, dont des amis, des activistes et des proches d'Abdel Moumni et de sa compagne, les montrant dans des situations intimes avant leur mariage. Fouad Abdel Moumni pense que des caméras ont été secrètement placées dans son appartement. Le code pénal marocain punit les relations sexuelles consensuelles entre adultes non mariés, de peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison. La diffusion de ces relations peut exposer les femmes en particulier à une stigmatisation durable. Abdel Moumni a déclaré que la diffusion des vidéos l'avait incité à faire temporairement profil bas pour protéger sa partenaire, sa sécurité et sa vie privée. Mais en octobre 2020, suite à de nouvelles critiques exprimées par Fouad Abdel Moumni envers les autorités marocaines, Chouf TV a publiquement identifié sa partenaire, cherchant à jeter l'opprobre sur elle. Ces dernières années, les autorités marocaines ont intensifié leur répression à l'encontre de dizaines de journalistes et d'activistes des réseaux sociaux en les condamnant pour diffamation, publication de fausses nouvelles, insultes ou diffamation à l'égard de responsables locaux, d'organes de l'État et de chefs d'État étrangers, et aussi d'atteinte à la sécurité de l'État ou à l'institution de la monarchie. Une escalade majeure s'est produite lorsque la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca a arrêté le 1er mars dernier 4 membres de la famille du créateur de contenu marocain basé au Canada, Hicham Gérando, en représailles apparentes à ses vidéos YouTube qui dénoncent la corruption présumée de personnalités publiques et de hauts fonctionnaires marocains. Les 4 personnes, la sœur de Gérando, son mari, son neveu et sa nièce de 13 ans, attendent d'être jugées pour complicité présumée de diffusion de faits erronés après atteinte à la vie privée de personnes et pour leur participation présumée à des menaces du coup. Ismail Larazoui, désolé pour la prononciation, qui est un activiste, lui aussi a été convoqué pour interrogatoire en novembre 2024 suite à des appels à protester contre la facilitation par le Maroc des transferts d'armes américaines vers Israël, et il a été accusé d'incitation à commettre des infractions. Un tribunal de Casablanca l'a condamné ensuite à 1 an de prison et à une amende de 5000 dirhams, donc environ 520 $, le 10 décembre. Le 5 février 2025, la cour d'appel de Casablanca a réduit cette peine à 4 mois de prison, dont 2 mois avec sursis, et ordonné sa libération. Le 11 novembre 2024, le tribunal de première instance de Rabat a condamné Hamid El Madawi, rédacteur en chef du site internet Badil et critique fréquent du gouvernement, à 18 mois de prison et à une amende de 1,5 million de dirhams, c'est-à-dire 156 000 $ environ, pour avoir prétendument, je cite, « diffusé et distribué de fausses allégations et des faits erronés dans le but de diffamer des personnes, de calomnier et d'insulter publiquement », après avoir mentionné un ministre dans une vidéo. Il avait déjà été condamné à plusieurs peines de prison pour des propos pacifiques encore une fois. Le Parlement marocain devrait abroger toutes les dispositions qui criminalisent les délits de parole non violents, notamment les insultes à l'égard des fonctionnaires et des institutions de l'État qui peuvent être punies de peines d'emprisonnement en vertu du code pénal. La constitution marocaine garantit la protection de la vie privée et de la pensée, de l'opinion et de l'expression. Le Maroc est aussi un état partie du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit donc les droits à la liberté d'expression et à la vie privée. Les efforts de la monarchie marocaine pour se présenter comme progressiste contrastent fortement avec les agissements des forces de sécurité répressive du pays. La seule façon d'aligner ses positions et de mettre fin à la répression des opposants et des opposantes est de veiller à ce que les personnes puissent exprimer leurs opinions de manière pacifique. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr pour voir les enquêtes qui ont été menées sur la répression de la liberté d'expression au Maroc. La liberté d'expression est aussi mise à mal dans d'autres pays comme au Pakistan, où on demande instamment d'abroger l'amendement à la loi d'Accra Konyen sur la cybercriminalité. La loi modifiée menace la liberté d'expression, notamment sur Internet. Le récent amendement du gouvernement pakistanais sur la loi sur la cybercriminalité représente une menace grave pour la liberté d'expression, notamment sur Internet. Le Parlement pakistanais doit immédiatement abroger ou réformer la loi pakistanaise de 2025 portant modification de la loi sur la cybercriminalité. C'est donc l'acte 2025 Prevention of Electronic Crimes. La nouvelle loi, qui a été promulguée le 29 janvier dernier, comprend des dispositions faisant de la diffusion d'informations fausses ou mensongères une infraction pénale passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans. L'amendement ne définit toutefois pas précisément ce que sont les informations fausses ou mensongères, utilisant plutôt des termes vagues et généraux pour les décrire de manière subjective comme des informations susceptibles de provoquer, je cite, « la peur, la panique, le désordre ou l'agitation ». En excluant les groupes de la société civile et le secteur privé de la phase de consultation sur le projet de loi, le gouvernement a empêché une véritable discussion publique au sujet du texte, dont la formulation vague et vaste engendre des risques de violation des droits fondamentaux. Patricia Gosman, qui est directrice adjointe de la division Asie à Human Rights Watch, a rappelé dans un des rapports de l'association, je cite, « La loi pakistanaise modifiée sur la prévention de la cybercriminalité ne protège pas le public contre les menaces légitimes à la sécurité en ligne et ne respecte pas les droits humains fondamentaux. Le gouvernement devrait défendre le droit à la liberté d'expression et réviser la nouvelle loi en supprimant ces dispositions abusives. » Les amendements à la loi sur les crimes électroniques prévoient la création de 4 nouveaux organismes gouvernementaux chargés de réguler les contenus en ligne et élargissent la définition des préjudices en ligne. Ces organismes sont autorisés à bloquer et à supprimer des contenus sur la base de critères ambigus qui ne répondent pas en fait aux normes de proportionnalité et de nécessité qui sont normalement requises par le droit international. L'un de ces organismes, le Tribunal de protection des médias sociaux, est composé de membres nommés par le gouvernement directement plutôt que de membres indépendants du pouvoir judiciaire. Un autre nouvel organisme, l'Autorité de protection et de régulation des médias sociaux, pourra ordonner à toute entreprise de médias sociaux de supprimer ou de bloquer des contenus jugés contraires à l'idéologie du Pakistan, considérés comme faux ou mensongers ou comme insultants à l'égard de divers responsables publics. Cette autorité pourra également exiger que toute entreprise de médias sociaux s'enregistre auprès d'elle et imposer des conditions, les conditions que elle va juger appropriées pour un tel enregistrement. Le Parlement a adopté l'amendement dans le contexte d'une répression croissante de la liberté d'expression numérique au Pakistan, caractérisée d'ailleurs par les coupures fréquentes d'Internet ou de restrictions imposées parfois sur les réseaux sociaux. Les autorités pakistanaises ont utilisé le blocage de l'accès à Internet comme une tactique policière pour entraver la tenue de manifestations et empêcher toute critique du gouvernement sous couvert de maintien de l'ordre public et de lutte contre la désinformation. La Commission des droits humains du Pakistan est un organisme non gouvernemental qui a exprimé son inquiétude en avertissant que cette nouvelle loi, je cite, « risque de devenir un autre moyen de cibler les opposants et opposantes politiques, les défenseurs et défenseuses des droits humains, les journalistes et les dissidents et dissidentes en pénalisant de fait les critiques visant les institutions de l'État ». Le syndicat fédéral des journalistes du Pakistan a annoncé la tenue de manifestations à l'échelle nationale contre cet amendement, le qualifiant d'atteinte aux droits humains. L'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Pakistan est un des États parties, limite normalement les restrictions du droit à la liberté d'expression. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, l'organe d'experts indépendants qui surveille le respect de justement ce pacte international relatif aux droits civils et politiques, normalement, donc cet organe de l'ONU surveille le respect du pacte par les États. Et cet organe a indiqué que toute restriction doit être conforme à la loi, définie avec précision et répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité en visant un ou plusieurs objectifs considérés comme légitimes en vertu du pacte. Ça a déjà été le cas dans le passé puisque la loi pakistanaise sur la prévention de la cybercriminalité en 2016 avait déjà été utilisée d'une manière ayant violé les droits humains. Des dizaines de journalistes ont été inculpés en vertu de ces dispositions. En avril 2019, Shazeb Gilani, un éminent journaliste pakistanais, a été accusé de cyberterrorisme après avoir critiqué des institutions gouvernementales. En septembre 2020, trois autres journalistes, Assad Thor, Bilal Farouki et Absar Alam, ont été accusés de sédition et d'infraction à la loi du pacte. Après avoir publié en ligne des articles qualifiés de répréhensibles et d'insultants. La nouvelle loi sur les crimes électroniques risque donc d'aggraver davantage encore les violations de la liberté d'expression et d'Internet au Pakistan. Et cette surveillance policière en ligne ne protégera pas les citoyens contre les fausses nouvelles, mais en donnera plutôt aux autorités une arme pour punir les personnes dont les points de vue leur déplaisent. Mais finissons sur une bonne nouvelle. En Iran, on a Narges Mohammadi, qui est donc prix Nobel de la paix, qui devrait être libéré sans condition, on l'espère très vite. On demande aux autorités de libérer aussi toutes les autres personnes qui sont détenues arbitrairement après avoir défendu les droits humains. Les autorités iraniennes menacent de renvoyer la militante des droits humains Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel pour la paix, en prison pour purger le reste de sa peine injuste afin de la contraindre à cesser ses activités de défense des droits humains. Aujourd'hui, les autorités devraient, selon Amnesty International et d'autres associations comme Human Rights Watch, libérer Narges Mohammadi et surtout mettre fin à son harcèlement sans condition. Elle devrait aussi libérer donc toutes les autres personnes qui sont détenues arbitrairement en raison de leur activisme en faveur des droits humains. Il faut savoir que Narges Mohammadi purge une peine de 13 ans et 9 mois de prison basée sur des accusations liées à ses activités en faveur des droits humains. Le 4 décembre 2024, elle a été libérée provisoirement de la prison des 20 après que les autorités ont suspendu sa peine de prison pendant 21 jours. Elle suit actuellement un traitement médical pour divers problèmes de santé et sa remise en liberté temporaire lui a été accordée après plusieurs mois durant lesquels les autorités pénitentiaires lui ont refusé des soins médicaux. Précédemment, en novembre 2024, Narges Mohammadi avait déjà bénéficié d'une brève libération provisoire afin de subir une opération chirurgicale à une jambe, l'ablation d'une lésion osseuse suspectée d'être cancéreuse. Suite à cette opération et malgré l'avis des médecins, les autorités l'avaient renvoyée en prison. Narges Mohammadi a profité de ce bref répit pour poursuivre son activisme et mettre en lumière la situation désastreuse des droits humains en Iran. La menace des autorités iraniennes de la renvoyer en prison rappelle brutalement leur tolérance zéro envers la dissidence. Les autorités iraniennes ont l'obligation légale de libérer sans condition Narges Mohammadi, donc lauréate du prix Nobel de la paix, ainsi que toutes les autres personnes détenues arbitrairement et de garantir à toutes les personnes détenues l'accès à des soins médicaux rapides et adéquats. Précédemment, en mars 2025, Narges Mohammadi a participé à une réunion virtuelle avec Federico Borrello afin de discuter de la situation des droits humains en Iran. Elle a attiré l'attention sur la crise des droits dans ce pays, en particulier sur l'escalade choquante du recours à la peine de mort par les autorités et sur la répression continue des défenseurs et défenseuse des droits humains. Elle a décrit le traitement des prisonniers et prisonnières politiques, y compris la privation de soins médicaux, ainsi que la torture et les mauvais traitements, notamment l'isolement cellulaire prolongé pour extorquer des aveux. Elle a souligné l'importance de maintenir une surveillance internationale sur le bilan désastreux des autorités iraniennes en matière de droits humains. Durant plusieurs mois avant sa libération provisoire, Narges Mohammadi a souffert de divers problèmes de santé, notamment de troubles cardiaques, de douleurs aiguës au dos et aux genoux et d'une hernie discale. Les autorités lui ont refusé l'accès à des soins médicaux adéquats malgré les nombreux appels leur demandant de le faire. Le 25 décembre 2024, qui est donc la date d'expiration de la suspension temporaire de sa peine de prison qui lui avait été accordée le 4 décembre, Narges Mohammadi a refusé de retourner à la prison des 20. Le 28 décembre, son avocat a déposé une demande auprès de l'Organisation iranienne de la médecine légale, placée sous l'autorité de la branche judiciaire, afin de prolonger cette suspension de peine de prison de Narges Mohammadi, conformément à l'avis de ses médecins. Selon les informations reçues par Amnesty International et Human Rights Watch, l'Organisation de médecine légale a approuvé cette demande, mais les autorités ont néanmoins exercé des pressions sur Narges Mohammadi pour qu'elle retourne en prison. Ses médecins ont affirmé qu'elle avait besoin d'au moins 6 mois hors de prison pour bénéficier d'examens et de soins médicaux approfondis et réguliers. Les autorités iraniennes exercent depuis longtemps une politique axée sur le refus d'accorder aux prisonniers l'accès adéquat et rapide aux soins médicaux. Cette politique est appliquée en particulier dans le cas de personnes détenues arbitrairement en raison d'accusations liées à la sécurité nationale et basées sur des motifs politiques, en tant que tactique pour les punir davantage et les réduire au silence. Des dizaines de prisonniers et prisonnières politiques continuent de se voir refuser des soins médicaux rapides et adéquats, tels que des traitements spécialisés dans des hôpitaux. Parmi ces personnes figurent Zeynep Jalalian, une prisonnière politique kurde condamnée à la prison à vie, Fatemeh Seperi, qui est condamnée à 18 ans de prison après avoir critiqué de manière répétée le guide suprême de la République islamiste d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, Raele Remi Paour, qui est une militante des droits civiques âgée de 72 ans, Warisha Moradi, qui est une militante kurde condamnée à mort, et Motaleb Ahmadiyan, qui est prisonnier politique kurde. Par ailleurs, Mavash Sabet, qui est ex-codirigeante de la communauté Bayi en Iran, a été provisoirement libérée de prison pour motif médical, après s'être vue refuser des soins médicaux pendant longtemps. Mais elle risque toujours d'être renvoyée en prison, évidemment. Selon l'ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, ceux qui requièrent des traitements spécialisés ou des soins chirurgicaux doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Le refus de soins médicaux aux personnes détenues peut s'apparenter à de la torture ou à d'autres mauvais traitements interdits de manière absolue par le droit international. Comme l'a constaté Amnesty International, certains prisonniers et prisonnières privés de soins médicaux nécessaires sont décédés lors de leur détention en Iran, ce qui a constitué une privation arbitraire de la vie. La politique odieuse des autorités iraniennes, consistant à refuser des soins médicaux aux détenus et aux prisonniers et prisonnières, peut avoir des conséquences mortelles. La communauté internationale devrait les tenir responsables de leur mépris flagrant non seulement à l'égard du droit à la liberté, mais aussi à l'égard du droit à la vie des personnes placées sous leur garde. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr, mais surtout je vous invite à signer nos pétitions concernant les prisonniers d'opinion et prisonnières d'opinion, notamment pour Narges Mohammadi, qui a désespérément besoin de signatures et afin de faire pression sur la prison pour qu'elle puisse garder cette suspension de peine de prison provisoire et qu'elle puisse avoir accès à des soins médicaux. Je vous invite donc vraiment à aller signer sur notre site, ça va assez vite. Et moi je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et à la semaine prochaine.